Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur Radion, un très grand bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir dans Wagon Livre, c'est votre émission littéraire, comme chaque samedi sur votre radio locale. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer une conférence que nous avons enregistrée le 21 juin dernier à Vézelay, une conférence proposée par l'Association des Amis de Vézelay et qui avait pour thème « Viollet-le-Duc, le sauveur de Vézelay ». Alors c'est Lydvine Saunier-Pernuy, conservateur délégué des antiquités et objets d'art de Lyon, en charge du trésor de la cathédrale de Sens, que vous allez entendre d'ici quelques minutes, revenir sur ce chantier, ce grand chantier du début du XIXe siècle qu'a constitué la basilique Sainte-Marie-Madeleine à Vézelay avec cette restauration dirigée par Viollet-le-Duc de 1840 à 1859. Il y sera question aussi de Prosper Mérimée, l'écrivain, mais juriste et fonctionnaire dans les cabinets ministériels de la jeune monarchie de Juillet, écrivain déjà reconnu et qui est nommé le 27 mai 1834 inspecteur général des monuments historiques. Alors, très vite, avec des moyens financiers qui restent néanmoins assez modestes, il faut trouver les priorités à définir, parmi lesquelles la basilique de Vézelay, puisque Prosper Mérimée, qui avait vu l'édifice, relaie ses préoccupations de façon décisive. Et il cite Vézelay en exemple des besoins urgents dans le rapport de fin d'année 1834, où il demande une augmentation des crédits ainsi qu'il esquisse une politique nationale. Mais il s'agit de trouver surtout l'homme qui peut entreprendre la restauration de l'édifice de Vézelay. Et cet homme, il s'appelle Viollet-le-Duc. On a depuis longtemps évoqué les relations de Mérimée, l'écrivain, avec la famille Viollet-le-Duc, en particulier avec le père, Emmanuel, et l'oncle d'Eugène, Étienne-Jean de l'Écluse, peintre et critique d'art, dont il fréquentait les salons rue Chabanais avec Stendhal. Mérimée a pu rencontrer le jeune homme dès le début des années 1830, dans ce cadre, ou en tout cas être informé de son itinéraire si particulier, les voyages studieux en France avec son oncle en 1831, seul en 1833, le refus d'entrer à l'école des Beaux-Arts, le voyage d'un an et demi en Italie, réalisé avec l'appui financier du roi, dont le jeune homme était rentré en septembre 1837. Alors le choix de Viollet-le-Duc est le choix d'une personne comme on vient de le voir, mais c'est aussi un choix emblématique d'une nouvelle politique de la part de Mérimée et de la Commission des Monuments Historiques. La suite vous est racontée par Lydvine Saunier-Pernuy, conservateur délégué des Antiquités et Objets d'Art de Lyon, en charge du trésor de la cathédrale, une conférence enregistrée le 21 juin 2025 à Vézelay.
Et là, Mérimée pense alors à un jeune homme qu'il a rencontré dans des salons par des relations, Eugène Viollet-le-Duc. Eugène Viollet-le-Duc, 26 ans, sans formation officielle, il a refusé de faire les Beaux-Arts, sans expérience, il est parti voyager en Italie et n'a pas suivi les chemins habituels, et surtout très ambitieux. Alors voilà Viollet-le-Duc, j'ai remis les dates, 1814-1879. Donc Viollet-le-Duc est nommé très rapidement, il accepte, il est nommé très rapidement le 13 février 1840. Il est agréé par la Commission des Monuments Historiques et chargé de présenter des devis et des projets. Viollet-le-Duc se met rapidement au travail. Et comme le prouve cette lettre, bon, j'aurais du mal à avoir les détails, mais enfin, je pourrais l'envoyer si vous voulez aussi. Cette lettre, elle date du 4 mars 1840, donc il est arrivé quelques jours avant. Et il écrit à des amis, on ne les connaît pas. Vous regardez je vais lire le texte, mais regardez la petite vignette qui est très drôle, parce que vous avez le vent qui souffle, tout le monde sait qu'il y a beaucoup de vent à Vézelay, et il souffle tellement fort que la basilique penche, la Madeleine penche, et on voit Viollet-le-Duc avec son haut de forme et son manteau, sa cape, qui essaie de résister lui aussi au vent. Et le texte dit « J'ai très froid aux doigts et au nez, je travaille beaucoup, j'ai un grand rhume de cerveau, je m'ennuie assez, je maudis le vent, je mange comme six ». Et je bois souvent, mais beaucoup. Du reste, je dors bien, et je voudrais bien avoir fini mon temps de travaux forcés. Il fait meilleur à Paris qu'ici. Regardez la vignette, voir la vignette. Je suis sûre que vous allez me dire, mais pourquoi ne nous écris-tu pas ? Réponse à faire, il est impossible d'écrire avec des gants. Depuis mon arrivée ici, je n'ai pas cessé d'avoir l'onglet, mais je commence à m'y faire. Mes mains ont passé du rouge au violet, du violet au bleu, elles sont actuellement d'un acajou parfaitement luisant. Donc, ce temps de travaux forcés, comme dit Viollet-le-Duc, lui permet de multiplier les relevés et de préparer un rapport détaillé pour la Commission des monuments historiques. Et il va mettre au point une méthode qui est claire, opposer l'état actuel, l'état existant, avant restauration, à l'état proposé à la restauration. Vous allez me dire, c'est courant ? Non, ce n'est pas si courant que ça. Et quand vous regardez, par exemple, l'école des Beaux-Arts, tous les prix de Rome qui déposent des grands relevés spectaculaires, où vous avez même les plus grands temples antiques proposés à la restauration, vous avez l'État proposé à la restauration. Vous avez rarement l'État actuel. Et là, systématiquement, comme Viollet-le-Duc sait que la situation est grave, il va dessiner. Ici, vous avez relevé, malheureusement, la lumière mange un peu. Ce grand relevé, donc cette relevé date d'avril 1840, c'est la façade latérale sud avant restauration. D'abord, remarquez la grande taille de ce relevé. Ce relevé fait 1,37 m de long. Donc, c'est quand même pas un petit croquis, hein, je veux dire que c'est vraiment quelque chose qui est fait détail après détail. Vous remarquez, je le montre en entier, je vais vous montrer deux détails moitié-moitié parce que c'est un plan qui se replie sur lui-même. Donc là, il est développé, mais je vais vous montrer la suite après. Il vous montre une chose importante dont on reparlera plus tard, c'est la surélévation d'une partie de la nef. Vous voyez que c'est à la pliure d'ailleurs du document, vous voyez qu'il y a trois travées qui sont plus hautes et qui sont au niveau du cœur. Nous en reparlerons tout à l'heure. Vous remarquez aussi le long. Attendez, je ne sais pas si je peux avec la souris vous le montrer ici. Ce que vous, oui, vous ne le voyez pas vraiment. Devant, vous avez un bâtiment qui est peut-être le bâtiment dont on parlera un petit peu tout à l'heure, qui est le bûcher du curé qui n'est pas content parce qu'on veut lui piquer son bûcher. C'est un bâtiment parasite qui est venu se coller sur et polluer donc la lecture de l'extérieur de ce bâtiment. Vous remarquez aussi que de très nombreuses baies, notamment au niveau de la tour, au niveau de l'avant-nef, mais aussi au niveau de ses travées et dans le cœur, ces baies sont bouchées. Donc, je vais vous montrer la moitié du cœur. Vous voyez mieux donc la coupe sur le bâtiment des moines, là où il y a le musée de l'œuvre, au niveau du transept. Vous voyez j'aimerais bien pouvoir le montrer, les fenêtres bouchées au niveau des dernières travées de la nef, les fenêtres bouchées au niveau du cœur et surtout l'état des arcs-boutants qui est fait d'une série de pierres entassées et qui ne sont trop épais pour être vraiment efficaces et résister à la pression de la voûte. Voici l'autre partie, l'autre moitié, donc la nef et l'avant-nef, et vous retrouvez donc toutes les baies bouchées au niveau des du rez-de-chaussée, du premier étage et tout le long de la tour, et vous revoyez mieux ce bâtiment parasite dont je vous parlais. Toujours autre bâtiment avant restauration, c'est la fameuse façade occidentale qui reprend un peu celle que je vous ai montée en tout premier et qui se trouve à la mairie de Vézelay. Et là, c'est la même technique pour Viollet-le-Duc, c'est-à-dire, vous voyez, alors là, plus encore que les deux portails latéraux à droite et à gauche, nord et sud, sont carrément bouchés, il n'y a plus de menuiserie, ils sont bouchés par de la maçonnerie. Au-dessus, à l'emplacement des deux parties latérales des tours, toutes les baies sont bouchées avec de la maçonnerie pour tenter de raidir tout ce qui menace de s'écrouler. Et puis la végétation gagne la tour nord, c'est-à-dire celle de gauche, qui n'a jamais vraiment existé et qui est une simple façade qui vraiment ne résiste évidemment pas aux intempéries. Alors, à ces grands relevés d'État avant restauration, il oppose l'État restauré. Là, vous avez la coupe longitudinale sur l'avant-nef, les deux travées d'avant-nef et sur les deux premières travées de la nef, et tout est rentré dans l'ordre. Tous les arcs sont parfaits avec leur alternance de pierre. Toutes les baies qui avaient disparu, qui étaient murées, sont retrouvées. Et la même chose, évidemment, pour la nef, tout est parfait, avec même la polychromie qui permet de donner de la gaieté à l'ensemble. Toujours avril 1840. La même chose, la coupe transversale de l'avant-nef, où là, vous reconnaissez, c'est dans l'autre sens, nord-sud, vous avez la chapelle Saint-Michel, tout à fait en haut de l'avant-nef, et vous voyez en perspective le très beau tympan de la nef et les deux petits tympans latéraux des collatéraux nord et sud qui font la gloire de Vézelay et qui n'ont pas été restaurés par Viollet-le-Duc, mais qui sont là projetés puisqu'il peut les dessiner, ils n'ont pas été abîmés, ils sont tels quels.
Enregistré le 21 juin dernier lors d'une conférence proposée par l'Association des Amis de Vézelay, vous avez pu entendre Lydvine Saunier-Pernuit, conservateur délégué des Antiquités et Objets d'Art de Lyon, en charge du trésor de la cathédrale de Sens, une conférence qui avait pour thème « Viollet-le-Duc, le sauveur de Vézelay ». On marque un premier intermède musical dans notre wagon-livre aujourd'hui sur Radion. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et on retrouve la suite de cette conférence de Lydvine Saunier-Pernuit juste après la virgule musicale que nous vous proposons.
Au travers de l'humain, prend des choses controversant au travers, en vers ou bien en prose, regardez-moi de travers, je prendrai la pose, moi je les aime mes travers, donnez-les vôtres, j'en ferai quelque chose. De chacun s'installent des choses, traversez donc vos travers, découvrez vos névroses, découvrez-vous et l'envers, et trouvons la cause, c'est en connaissant nos travers que vient la métamorphose. Travers aux manies, je vous mets en lumière, je me fais face, fini le déni, fini les manières, blablabla, bla bla bla, et je le redis, père, mère, sœur, frère, c'est une histoire de famille, une histoire de travers, une histoire de travers. Des choses controverses, tes travers, en vers et puis en prose, découvre l'endroit et l'envers, analyse la chose en comprenant tes travers, viendra la métamorphose.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Sans tarder, nous retrouvons la suite de cette conférence enregistrée le 21 juin dernier, conférence proposée et organisée par l'Association des Amis de Vézelay qui recevait Lydvine Saunier-Pernuit, conservateur délégué des antiquités et objets d'art de Lyon, en charge du trésor de la cathédrale de Sens. Le thème de cette conférence, Viollet-le-Duc, le sauveur de Vézelay, Lidvine Saunier-Pernuit.
Donc tout rentre dans l'ordre quand Viollet-le-Duc propose l'État à restaurer, proposer à la restauration. Donc ces grands relevés existent, ils sont absolument remarquables, ils datent tous des années 1840-42 au maximum, un peu plus pour ce qui est pour des restaurations plus tard. Mais je voudrais insister sur le fait qu'à Vézelay, la documentation est exceptionnellement abondante. Parce que outre ces grands relevés que j'ai essayé de vous montrer, même si les photos sont un peu difficiles, vous avez toute une série d'autres documents qui permettent de suivre pas à pas la restauration de la Madeleine et le travail de Viollet-le-Duc. C'est ce qu'on appelle notamment, vous en avez un exemple là, j'en demande qu'un seul, c'est ce qu'on appelle les attachements d'architecture, c'est-à-dire des relevés techniques qui sont destinés aux entrepreneurs, qui généralement sont faits en deux exemplaires, avec mention, alors ce n'est pas sur celui-là, mais avec la mention de l'exercice budgétaire, avec souvent la signature des intervenants, c'est-à-dire Viollet-le-Duc comme commanditaire, comme chef d'architecte, l'entrepreneur et l'inspecteur des travaux. Eh bien, figurez-vous que des documents comme ça, qui sont sur un papier plus simple, hein, ce n'est pas les grands relevés que vous avez eus juste avant, ces attachements d'architecture, j'en connais plus de 600, répartis entre les archives, la médiathèque du patrimoine, les archives départementales de Lyon, les archives nationales, et peut-être d'autres que je ne connais pas. Donc ils sont multiples, et se permettent vraiment, alors je n'en montre qu'un, c'est la porte nord de la façade occidentale de Vézelay. Donc le tympan a été martelé, s'il a eu une sculpture d'ailleurs, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça a été très abîmé. Et vous voyez l'élévation, la coupe, la projection en plan, de l'autre côté, le retour de façade. Et vous remarquez, alors toutes les mesures sont données, c'est calculé, c'est un travail d'architecte très, très précis. Et vous remarquez qu'il y a trois couleurs. Du gris, enfin elles sont un peu passées, du gris, le gris c'est ce qui reste, donc on ne change pas les colonnes, vous voyez, donc les colonnes, si vous passez devant, c'est les colonnes anciennes, en principe, à moins qu'il y ait eu une mauvaise donne ensuite. En rose, c'est la pierre de la Manse, qui est réservée là au tympan, mais comme Viollet-le-Duc ne le sculptera pas, c'est une pierre assez commune. En revanche, le chapiteau que vous avez à gauche, que vous revoyez à gauche et revoyez en coupe, c'est un chapiteau qui va être sculpté, et donc il est en pierre de Coutarnou. Donc voilà, c'est aussi une indication très précise pour les entrepreneurs de ce qu'ils doivent faire. Je voudrais vous parler aussi, alors je ne vais pas vous montrer les 600 et quelques, donc rassurez-vous, mais vous montrer là d'autres dessins, qui sont une source assez peu connue, bah, sauf si vous allez au musée de l'œuvre, parce qu'on en a reproduit un certain nombre. Cette source assez peu connue parce que longtemps restée dans la famille de l'architecte. Et moi-même, quand j'ai commencé à travailler, je l'ai vue chez Madame Geneviève Viollet-le-Duc, que vous connaissez, puisqu'elle a offert au musée de l'œuvre un buste de Viollet-le-Duc. Et c'est après, ça a été donné par son fils à des institutions publiques où c'est beaucoup mieux parce que tout le monde peut les voir. Sinon, moi, je le consultais sur une petite table où elle me servait le thé en même temps, ce qui était quand même très, très embêtant. Donc, ces petits dessins sont des dessins que Viollet-le-Duc a fait, des feuilles de carnet qu'il couvrait de croquis. Viollet-le-Duc a la passion du dessin, une passion qui ne s'applique pas d'ailleurs qu'à l'architecture, parce que Madame Viollet-le-Duc m'avait montré d'ailleurs des dessins magnifiques de montagne, il était passionné par la montagne, le Mont Blanc, enfin voilà, les glaciers, mais aussi des chats. Il y avait toute une série de dessins qui sont toujours chez elle, enfin chez elle ou ses descendants, de chats dans toutes les positions, puisque le chat est quand même un habitué des écrivains et des hommes de lettres. Donc à Vézelay, il arrive et il va dessiner aussi, même s'il a l'onglet, même si ses mains sont couleur acajou. Et donc il dessine à Vézelay pour regarder, pour étudier, mais aussi pour le plaisir. Il dessine sans cesse. Et ces centaines de petites feuilles sont donc restées dans la famille et ont été collées, comme vous le voyez, là il y en a 6 dans un grand album qui est maintenant donc dans le public, mais qui était comme ça, ça a été collé par le fils de Viollet-le-Duc pour que ça ne soit pas perdu. Il a donc détaché de ses petits carnets pour coller ses grandes feuilles. Donc il y a des quantités de grandes pages comme ça, où pêle-mêle sont mélangées. Là, tout est Vézelay, mais parfois vous avez des choses qui sont dans d'autres lieux. Donc ces centaines de petites feuilles sont toutes faites dans l'Église avant toute restauration. C'est donc d'un intérêt capital pour l'étude archéologique du bâtiment comme de la sculpture. On s'en est beaucoup servi pour la sculpture dans le musée de l'œuvre de Viollet-le-Duc, mais on peut s'en servir aussi pour des éléments d'architecture. Dans cette abondance de dessins, Viollet-le-Duc ne dessine pas seulement les parties de l'édifice qu'il devait ou qu'il se proposait de restaurer. Et voyez, dans la partie à gauche en haut, vous reconnaissez, je l'espère, le tympan de la nef, donc le tympan qui n'a pas été restauré ou que le Viollet-le-Duc n'a pas touché. C'est le premier caisson à la gauche du Christ en majesté, au niveau de sa tête. Ça représente les peuples de la terre, et ce sont les Éthiopiens avec leur nez de cochon, leur groin de cochon. Donc Viollet-le-Duc n'a pas l'intention de toucher à cette partie sculptée, mais il la dessine parce que ça l'intéresse, parce que c'est... Voilà. Et de même, à droite, le grand dessin que vous avez là, qui est plus grand que les autres, ça représente la grande fenêtre dont on parlera, la grande fenêtre du XIIIe siècle, au-dessus du portail central de la façade occidentale de la Madeleine. Et c'est... Je ne sais pas où était Viollet-le-Duc, il devait être perché sur un échafaudage quand même, ou dans la tour sud, s'il n'avait pas peur de tomber avec. Et vous voyez que c'est une perspective, on aperçoit les dais qui sont au-dessus des grandes statues monumentales qui représentent Saint Jean-Baptiste, Saint Philippe et Saint André. Mais il y a aussi le détail de chapiteaux à feuillage et de crochets qui sont du XIIIe siècle. Donc il a dessiné, parce que voilà, là il y a eu des travaux sur cette partie-là, mais ce n'est pas forcément en but de restaurer les choses qu'il a fait. Alors maintenant, après vous avoir montré cette importance, et ça c'est vraiment spécifique, alors oui, il faudrait que je vous dise quand même une chose, excusez-moi, je voulais conclure là-dessus en disant, à ces sources graphiques s'ajoutent bien sûr de nombreuses archives écrites, les rapports détaillés, les lettres bilan qui montrent la progression des travaux. Donc il y a, je le répète, à Vézelay, une documentation incroyable. Cette documentation existe pour Vézelay car il était jeune, disponible, et qu'il entendait lancer sa carrière par le soin apporté à toute chose. En revanche, dès 1851-1852, les rapports s'espacent, il y a beaucoup moins de dessins, alors que le sauvetage de Vézelay est assuré, que la célébrité de Viollet-le-Duc est reconnue, et surtout que d'autres chantiers lui sont proposés. Alors maintenant, je voudrais faire trois petits chapitres pour montrer quelques opérations à Vézelay, soit opérations de sauvetage, soit d'autres opérations qui sont plus ou moins louables. Opération de sauvetage, évidemment, la plus connue, la plus spectaculaire, c'est la reprise des trois travées de la nef qui me tint ses ruines. Ici, vous avez un attachement d'architecture, je suis désolée, mais c'est sur papier calque et c'est très très pâle. Il reprend ce qu'il veut faire, c'est-à-dire en bas l'état avant restauration et au-dessus l'état projeté. Mais je passe tout de suite à la photo suivante, qui est la partie inférieure de ce qu'on vient de voir, vous voyez quand même un petit peu mieux. C'est sur cette coupe, les dégâts qui sont là. Regardez la partie centrale, vous avez un arc qui est complètement écrasé, qui est en anse de panier. Et si vous regardez bien, vous avez de part et d'autre des fissures qui s'ouvrent, en effet, nous l'avait dit Viollet-le-Duc. Et vous voyez que la coupe sur les arcs-boutants qui sont de part et d'autre, les arcs-boutants sont épais, sont lourds, sont fissurés, et c'est vraiment... un attaque catastrophique dans lequel se trouvent ces trois travées. Et vous remarquez que Viollet-le-Duc a fait un très gros cintrage avec des mâts verticaux, transversaux, et jusqu'à épouser le cintre déformé pour soutenir de partout la voûte, pour pouvoir ensuite détruire petit à petit les choses et remplacer par des éléments solides. Et si vous regardez bien de part et d'autre, vous avez des étais aussi à l'extérieur, soit en bois du côté nord, soit en maçonnerie, un arc de maçonnerie du côté gauche. Donc, et ça me fait penser, moi ça me fait penser aux étaiements des arcs-boutants de Notre-Dame de Paris après l'incendie. Vous vous souvenez, quand on a vanté les travaux de l'architecte en chef, dont j'ai oublié le nom, qui vraiment a fait ça avec une délicatesse très grande, il fallait ne rien cogner, ne rien choquer, pour qu'on puisse arriver à soutenir des arcs qui étaient complètement bouffés par l'incendie. Alors, voilà ce que ça donne, une fois que c'est fait. Une fois que c'est fait, donc les deux relevés que je vous ai montrés avant et après datent du 29, le projet d'étalement est du 29 août 1840, et Viollet-le-Duc précise qu'il était temps, car les murs goutteraux, c'est-à-dire les murs extérieurs, déversés de 25 cm à leur sommet, pouvaient s'écrouler d'un moment à l'autre sous le poids des voûtes. Alors voilà la vue actuelle de Vézelay, donc c'est les premières travées, c'est pas les trois dernières, c'est les trois qui sont devant. La première que vous avez, il y a l'église ici, donc c'est juste après les trois autres travées. Donc les voûtes sont reconstruites moins épaisses, les contreforts à l'extérieur sont allongés, les arcs boutants sont affinés, et surtout les doubleaux sont refaits entièrement, sauf le sommier, c'est-à-dire la base de l'arc, qui reste ancienne, où on a la partie ancienne. Et là, quand, une fois que tout ça est refait, sont les trois travées qui menacent ruine, on enlève les cintres, aucun mouvement ne se produisit dans la maçonnerie, et c'est gagné. Mérimée, en 1848, dit, je le cite, « Telle était la situation de l'église de la Madeleine il y a peu d'années, que c'était avec une sorte d'effroi qu'on voyait préparer les travaux de consolidation, car il était à craindre que le moindre ébranlement n'amena la ruine d'une masse minée de toutes parts. » La restauration est remarquable, c'est un triomphe pour Viollet-le-Duc. Cependant, il y a eu un point secondaire un peu regrettable. C'est que l'effet de polychromie a été fait, je vais vous montrer une photo suivante, a été fait par Viollet-le-Duc avec uniquement de la peinture. Vous avez au premier plan, c'est d'une photographie qu'avait pris le père Hugues et que je lui avais demandé, parce que le premier arc pris en gros plan, l'arc doubleau, vous voyez l'élévation ancienne, donc des gros claveaux blancs séparés par des pierres brunes, qui sont la pierre de Tarroiseau, très spécifique, et vous avez derrière la restauration de la quatrième, du quatrième doubleau de la travée suivante par Viollet-le-Duc. Et vous voyez que vous avez un joint, juste en dessous, vous avez un joint blanc dans le claveau, dans les claveaux blancs, pardon, vous avez un joint au milieu. Viollet-le-Duc n'a pas compris qu'il aurait dû, s'il voulait garder la subtilité des constructeurs du XIIe siècle, dans un édifice comme Vézelay, la nef de Vézelay, où la pierre et la lumière s'allient de manière avec beaucoup de subtilité, il aurait fallu qu'il aille chercher de la pierre de Tarroiseau, et que cette peinture, qui est un peu dure, et ne trompe personne, et on voit bien que même si l'effet général est donné, il y a une certaine maladresse qui est un petit peu regrettable. Enfin, il l'a sauvé. Deuxième autre exemple d'une restauration menée avec maîtrise dans un contexte très difficile, c'est la reprise en sous-œuvre. Alors je vous montre le plan de Vézelay à nouveau, c'est la reprise en sous-œuvre de la première pile sud de l'avant-nef en 1852. C'est plus tardif, vous voyez, c'était vers la fin de son chantier. Vous vous souvenez que la tour sud, ça porte la tour sud, un quart de la tour sud, qui a été minée par l'incendie de 1819. En 1845-46, Viollet-le-Duc l'échafaude tout de suite, pour pas sachant bien la fragilité. Mais il dit dans son rapport, en 1852, je le cite, « Elle continuait à s'écraser doucement, mais avec une persévérance inquiétante, donc il fallait faire quelque chose. » Donc il propose, il fait poser des cintres. Donc voilà, c'est ces deux emplacements que vous revoyez. C'est donc la pile que vous avez dans la photographie à droite, c'est la pile sud, donc le revers de façade, et vous voyez qu'elle porte le poids de la tour qui repose sur une partie de la tribune sud. Donc Viollet-le-Duc fait poser des cintres pour soutenir le poids de la tour, Il va démolir la pile. Dans cette pile-là, on le voit d'ailleurs, la pierre, enfin non, pas sur ma photo parce qu'elle est un peu éteinte, mais vous irez le voir en vrai, parce que vous êtes vézelien. Donc toute cette pile est vraiment démontée complètement, reprise en sous-œuvre, sachant qu'il y a tout le poids au-dessus de la tour, donc c'est vraiment quelque chose de très difficile, et il l'a reconstruit à neuf. Et il y a, là aussi, sur ce travail, cette restauration, toute une série d'attachements qui montrent, des attachements d'architecture pour le maître d'œuvre, pour montrer ce qu'il doit faire. Et Pierre Meunier, appareilleur du chantier, dont je vous reparlerai tout à l'heure, note pour l'année 1852, je le cite, « Démolition et reconstruction du premier pilier isolé du porche côté sud, donc c'est bien celui-là, reconstruit en entier jusqu'à la hauteur des chapiteaux. Chaque assise n'est qu'en 4 morceaux de pierre. Cette reprise a duré 31 jours, car ce pilier porte le quart de la tour sud. » Et note, entre parenthèses, travail dangereux. Il était sur le chantier, lui.
Merci d'être avec nous à l'instant, Lidvine Saunier-Pernuit, conservateur délégué des antiquités et objets d'art de Lyon, en charge du trésor de la cathédrale d'Essence que nous avons enregistré lors d'une conférence proposée par l'Association des Amis de Vézelay. C'était le 21 juin dernier, salle du Clos à Vézelay. Et si Mérimée n'était pas venue, vous avez effectivement un grand nombre d'éléments de réponse dans la conférence que nous avons enregistrée et que nous partageons en cette fin de matinée sur Radio avec vous. On marque un nouvel intermède musical et on retrouve la suite de cette conférence juste après.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci en cette fin de matinée d'être avec nous sur l'antenne de Radion pour suivre la conférence intitulée « Viollet-le-Duc, le sauveur de Vézelay ». Une conférence que nous avons enregistrée le 21 juin dernier avec l'aimable autorisation de l'Association des Amis de Vézelay. Une conférence proposée par Lydvine Saunier-Pernuit, conservateur délégué des Antiquités et Objets d'Art de Lyon, en charge du trésor de la cathédrale de Sens. Alors Viollet-le-Duc, le sauveur de Vézelay, la suite de cette conférence sur Radion.
Autre petit chapitre, c'est des restitutions plus ou moins louables. Ça sera à vous d'en juger. Je ne vous montre qu'un exemple, c'est les travées qui ont été surélevées au XIIIe siècle et qui se situent, vous voyez, dans le rectangle bleu, juste avant la dixième travée de la nef qui ouvre sur le cœur de Vézelay, qui lui est gothique, vous savez. Ce sont les septième, huitième et neuvième travées de la nef. Donc, je vous montre un autre relevé. Cette fois-ci, c'est la face latérale nord, avril 1840, où vous voyez les mêmes difficultés, où les baies sont bouchées, mais au-dessus des baies, vous apercevez un arc plus haut, un arc en brisé, qui montre bien que c'est la partie surélevée à l'époque gothique. Le toit s'aligne sur celui du cœur, et là, c'est probablement une volonté des moines de prolonger le cœur liturgique pour leur donner plus de place aux moines et moins de place aux pèlerins et aux fidèles. Cette volonté a évidemment provoqué cette coupure, un petit peu désagréable dans la nef. Donc le 3 juin 1844, dans une lettre au ministre, Viollet-le-Duc pose le problème de ces trois voûtes. Malgré la réfection en 1842 de tous les arcs-boutants, ça c'est la première chose qu'il a faite, hein, les trois voûtes, ces trois voûtes-là dont je vous parle, sont en mauvais état, les fissures se sont rouvertes. La modification gothique, dit Viollet-le-Duc, brise l'unité du vaisseau roman. Et là, juge-t-il, que peu d'intérêt, elle ne mérite pas d'être respectée. Et puisqu'il faut reconstruire les voûtes, autant les refaire romanes. On maintiendra la quatrième voûte gothique, c'est-à-dire la dixième voûte de la nef, qui est en bon état, fort heureusement, et qui permettra de dégager la perspective sur le cœur gothique. Les arguments de Viollet-le-Duc l'emportent, les crédits sont accordés, et les travaux sont faits en 1845. Les 7e, 8e et travées, alors je vous remontre évidemment ce que vous connaissez par cœur, les 7e, 8e et 9e travées sont rendues sur leur forme romane, la 10e, et on le voit à l'extérieur, vous voyez, à la 10e, le toit maintenant se continue, et le mur pignon est reporté à l'entrée du chœur, aux limites d'ailleurs de la tour de Saint-Antoine. C'est une restitution qui est généralement louée. Francis Salet, à nouveau je le cite, grand historien donc de Vézelay, il dit, je le cite, « L'immense vaisseau a retrouvé par là son unité, ses proportions et le sens même de l'œuvre nous a été rendu. » Ces modifications, évidemment, entraînent la dépose de pièces de sculptures qui ne sont plus utiles. Vous avez là les trois photos des trois clés de voûte de ces trois voûtes gothiques qui maintenant sont remises en roman et donc qui sont maintenant placées dans la première salle du musée de l'œuvre de Viollet-le-Duc. Vous avez à droite, l'apparition du Christ à la Madeleine, à gauche le couronnement de la Vierge et la troisième clé de voûte qui est en dessous, plus petite, même si elle a des moulures qui sont gothiques, elle porte les armes d'Antoine Sanguin, qui est qu'on appelait le cardinal de Meudon et qui était abbé de Vézelay entre 1542 et 1560. Je ne m'explique pas pourquoi. Et puis le troisième petit chapitre, c'est les restaurations qu'on peut trouver un peu discutables. Et pour cela, je prends un seul exemple, la façade occidentale. Alors je sais que c'est une question délicate, car c'est une façade d'aspect disparate, hybride en quelque sorte, puisque vous avez dans la partie basse un ensemble qui est roman, il n'y a pas d'hésitation, aussi bien dans la partie moderne actuelle que dans le relevé de Viollet-le-Duc en 1840. Les trois portails sont bien romans, en plein cintre. Et les baies qui sont de part et d'autre, à droite et à gauche, regardez-les, elles sont en plein cintre, jusqu'à une certaine hauteur, qu'elles aient été débouchées ou non par Viollet-le-Duc. Mais au milieu, au-dessus du portail central, on a créé, au milieu du XIIIe siècle, une grande baie à cinq lancettes et à deux niveaux, le premier niveau ajouré et le deuxième niveau aveugle, portant tous les deux un programme développé, on l'a aperçu tout à l'heure sur le dessin de Viollet-le-Duc, développé de statues monumentales sous des dais, Saint-André, Saint-Philippe, Saint-Jean-Baptiste, et qui est souvent rapproché de la façade de la nef de Saint-Père sous Vézelay, qui est d'ailleurs contemporaine. Alors ce décor devait gagner, je l'ai grossi, voyez, pour que vous voyez un peu mieux. Ce décor devait gagner les parties latérales, nord et sud, comme le prouvent les arcs brisés qu'on voit de part et d'autre, comme le prouvent aussi des dais et des culots qui sont à droite et à gauche, et puis ces jeux d'épaisseur de la muraille. Il faut regarder, évidemment, là on ne le voit pas très bien, mais si quand même vous voyez les dais. Et il est évident que tout ça a été abandonné à la fin du XIIIe siècle, enfin au courant XIIIe siècle, disons deuxième moitié XIIIe, par manque d'argent, lorsque les pèlerinages se sont raréfiés. Alors elle est en mauvais état, c'est évident, rappel de l'incendie de 1819, par la foudre, dégradation de la tour sud, les maçonneries ruinées, etc., les obturations maladroites, et ajoute Viollet-le-Duc, la fenêtre centrale, donc cette grande baie du XIIIe siècle, déversait de 50 cm vers l'avant, vers l'ouest. Alors Viollet-le-Duc, je vais revenir en arrière, attendez, hop, voilà, on va reprendre la partie gauche, voilà, et en rose, je vous ai entouré les deux grands contreforts que Viollet-le-Duc remonte, donc il commence d'abord par déboucher toutes les obturations de maçonnerie, il restaure toutes les fenêtres, il restaure les portails, on a vu tout à l'heure l'attachement, il reconstruit la tour. Il construit la tour nord qui n'a jamais existé. Et pour conforter la façade, il élève à droite et à gauche deux contreforts qui montent de part et d'autre, évidemment en faisant disparaître le décor qui était en attente. Pas fini, bien sûr, mais en attente. C'était nécessaire probablement à son époque, mais il faut reconnaître que ces contreforts sont lourds, disgracieux, et qu'ils ont sérieusement modifié l'aspect de la façade occidentale de Vézelay, qui n'est pas ce qu'il y a de plus remarquable à Vézelay. Et Viollet-le-Duc va supprimer tous ces éléments. Donc les éléments, inévitablement, sont déposés au musée de l'œuvre Viollet-le-Duc. Dans le mur du fond de la deuxième salle, vous apercevez ces différents éléments, et vous voyez la sainte qui est à droite, en photo à droite. Est-ce une martyre? Elle tient quelque chose qui, s'il n'était pas cassé, pourrait être une palme de martyr, mais on n'en est pas sûr. En tout cas, ce n'est pas une sainte Madeleine, c'est une sainte Madeleine, elle est au-dessus avec le Christ. Donc c'est une sainte qui devait être là, et qui, je reviens en arrière, était dans la partie droite, vous voyez, sous un dais. Et ce qu'on lui a reproché aussi, c'est qu'il va uniformiser, dans cette fenêtre, donc je vais rester là, il va uniformiser sous les pieds des saints, il va faire tous les chapiteaux de la même façon, alors qu'il y avait une fantaisie avec des petits personnages, il y a des grotesques qui sont d'ailleurs au musée de l'œuvre. Donc voilà, on peut se modifier ainsi, si vous voulez, une situation léguée par le passé a été profondément reprochée, fortement reprochée à Viollet-le-Duc, et serait évidemment impensable aujourd'hui. Une solution moins radicale aurait-elle été possible? Évidemment, on ne peut pas parler à la place de Viollet-le-Duc. En tout cas, je le répète, c'est un petit peu dommage et ça donne une certaine sévérité, si vous voulez. Ça, plus le tympan très neuf de Michel Pascal sur le portail central, c'est un petit peu, peut-être, une des choses moins heureuses que Viollet-le-Duc a fait. Et puis, je vais terminer par ce que j'appelle les petits échos du chantier de Viollet-le-Duc, parce qu'il y a justement tellement de choses assez drôles autour du chantier, parce qu'il y a cette documentation importante, que je voulais, pour terminer, à vous qui êtes vézeliens, vous en parler. Alors, Viollet-le-Duc est très présent. surtout des premières années à Vézelay. Il veut réussir coûte que coûte, et je vous dis, jusqu'au début des années 1850, il est là très très souvent. Et quand il n'est pas là, il inonde ses partenaires de courriers. Il y a à la bibliothèque d'Auxerre, qui s'appelle médiathèque bibliothèque d'Auxerre en tout cas, il y a plus d'une centaine de lettres de Viollet-le-Duc à Émile Amé. Plus d'une centaine, 150 je crois de mémoire. Donc Viollet-le-Duc est très présent. Il est relayé sur place par l'inspecteur des travaux. L'inspecteur des travaux, donc c'est Émile Amé, en 1846, mais avant c'était Cominet, en quel il avait beaucoup confiance, mais il était malade, donc il a été obligé de céder la place à Émile Amé, qui lui est resté jusqu'au bout du chantier, et s'est même fixé dans la Vallonnais. Et puis l'autre personnage important, c'est l'entrepreneur de maçonnerie. Et ça sera le même d'un bout à l'autre, qui s'appelle Demey, et je ne connais pas les descendants de Demey, mais je suis sûre qu'eux aussi devaient avoir beaucoup de lettres. Donc il fait pression sur ses collaborateurs, pour sans arrêt, par les courriers ou en vrai, en chair et en os, avoir de l'autorité sur eux. Et il, notamment, lorsque l'inspecteur général Mérimée annonce sa venue, parce qu'il vient aussi assez souvent, et là, il faut que tout soit impeccable. Alors, il y a des difficultés localement. De toute façon, il y a toujours des difficultés à Vézelay, n'est-ce pas ? Difficultés notamment avec la population, mais surtout avec le curé, l'abbé Sergent. Alors, on apprend par ses courriers que le curé, le brave curé, rechigne à donner des clés, parce qu'il trouve quand même que Viollet-le-Duc veut aller partout et que c'est un peu énorme. Enfin, les ouvriers de Viollet-le-Duc. Il s'oppose à la destruction de son bûcher, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Alors j'imagine que c'est peut-être le bâtiment annexe qui est contre la Madeleine et qui, évidemment, nuit quand même beaucoup. Et donc, il est placé contre l'église, dit-il, et tant qu'on ne lui aura pas fourni un autre local pour qu'il puisse mettre son bois. Et puis il s'indigne, on va dire à juste titre, n'est-ce pas, parce que les cérémonies religieuses sont régulièrement troublées par les travaux qui se poursuivent même le dimanche. Et ça, c'est dans une lettre au maire le 11 mai 1841. Et ce même curé dit que toutes ces, je le cite, ces vexations et ces calomnies sont portées en haut lieu auprès de l'archevêque et du ministre. Donc vous voyez, tout ne se passait pas si facilement que ça. Viollet-le-Duc soutient ses ouvriers et il recommande à son entrepreneur, Cominet, la prudence. Il lui dit, je le cite, « On a fait tout ce qu'on a pu là-bas pour vous nuire ici au ministère. J'ai été obligé de parler assez dur. Tenez-vous bien, soyez sans faiblesse, inexorable avec les entrepreneurs, poli mais comme une porte de prison avec les voisins, sans pitié pour les abus, que la comptabilité soit rigoureuse et toujours en état d'être mise sous les yeux du ministre et tout ira pour le mieux. » Alors vous imaginez l'équipe nombreuse mais cohérente, qui travaillait autour de Viollet-le-Duc, travaillait, j'imagine, avec enthousiasme, avec des monuments, des moments clés, comme par exemple le décintrage des trois premières travées qui menaçaient ses ruines. Voilà. Et donc, on imagine que Viollet-le-Duc les a entraînés, et il dit d'ailleurs, Viollet-le-Duc, dans un article, je n'ai pas la référence exacte, mais il a un article dans une revue qui s'appelle Le travail des ouvriers. Et il dit dans cet article qu'il a appris à manier les hommes à Vézelay. Donc c'était aussi une leçon pour lui de travailler avec ce que sont les hommes pour leur faire rendre le mieux. De manière directe ou indirecte, il dirige tout et se tient au courant de tout. Et il partage avec l'équipe les difficultés du chantier comme les moments joyeux. Et là, je vous montre un dessin de Viollet-le-Duc qui était dans le fond de Madame Viollet-le-Duc, et qui maintenant doit se retrouver dans un lieu public, je ne sais pas lequel, qui représente la chute de la voûte de l'avant-nef dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1843. C'est noté précisément sur au dos du dessin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette nuit du 30 novembre au 1er décembre 1841 ? Malgré les étaiements soigneusement posés comme dans les trois travées de la nef, qui posaient problème, les choses ont lâché, parce que c'était peut-être mal équilibré, parce que c'était, je ne sais pas, mais enfin, de les... En tout cas, ça aurait pu causer la vie à plusieurs personnes, plusieurs ouvriers, s'ils étaient arrivés en plein jour. Donc on appelle Viollet-le-Duc, on lui dit, et il arrive, et il dessine, Il dessine ce qu'il représente par une étude, mais c'est un souvenir qu'il a envie de noter, peut-être, pour lui, je ne sais pas. Mais c'est assez étonnant de voir ce petit dessin qui vient s'ajouter à ses dessins d'études. Mais il y a eu des morts, quand même, il faut dire la vérité, sur ce chantier. En 1841, on apprend qu'un maçon, employé à la reconstruction des voûtes de l'avant-nef, se tue en tombant d'un échafaudage. Un autre tombe aussi, il est amputé d'une jambe parce que la jambe est fracturée et qu'on n'a pas pu lui sauver. Le 6 août 1848, le couvreur Antoine Charon tombe d'un échafaudage et se tue. Et cela, chaque fois, Viollet-le-Duc s'arrange pour qu'il y ait une pension pour la famille, et je suppose qu'il veut aussi une lettre de condoléances à la famille. Mais il y a aussi des moments heureux, exaltants, j'en ai choisi un seul exemple, enfin vous pouvez en penser à d'autres, hein, après ce que je vous ai dit, la découverte des baies de la salle capitulaire avec leurs chapiteaux à feuillage et têtes humaines par les ouvriers de Viollet-le-Duc le 25 juillet 1848. Alors, pourquoi ? Parce que il faut savoir que le cloître n'existait pas, et donc on avait muré la salle qui est la petite chapelle d'hiver aujourd'hui, qui est la salle capitulaire, on l'avait murée en cachant complètement ces très beaux détails. On voit d'ailleurs que dans la partie gauche du dessin, vous voyez le blocage qu'on est en train de creuser. Et donc, Viollet-le-Duc est appelé pour voir cette découverte. Il s'enthousiasme, c'est en 1848, il commence déjà à s'intéresser moins, mais quand même, il se passionne pour cette salle. Il va la dessiner à plusieurs reprises, dessiner des tas de petits détails, parce qu'il voit vous y passerez, en passant par l'aile de cloître, vous verrez ces petits détails qui sont généralement anciens, auxquels Viollet-le-Duc n'a guère touché. Il a refait les extrémités des cannelures, des petits détails, mais tout le reste est ancien. Et donc, il se passionne pour cette salle. Et le dessin qu'il fait, et le dessin qu'il fait en arrivant, là aussi c'est précisé. Donc il dessine pour saisir le détail lui-même, l'événement lui-même, pardon. Et vous pouvez regarder, tout à fait à gauche, je ne sais pas si vous voyez, il y a quand même quelqu'un, il n'est pas tout seul à dessiner, puisque vous avez un personnage qui est assis, et qui est en train, un chapeau sur la tête, et qui est en train de dessiner. Alors je voudrais terminer par deux témoignages qui, pour moi, évoquent le chantier autour de Viollet-le-Duc à travers le mémoire manuscrit de Pierre Meunier. Alors, un petit peu plus sur ce personnage, Pierre Meunier, il dit lui-même, dans son mémoire manuscrit, « Je suis arrivé à Vézelay le 28 août 1843 », donc c'était peu de temps, 3 ans après le début du chantier. Et je n'ai pas quitté l'église de Vézelay et celle de Saint-Père depuis cette époque. Donc c'est un fidèle parmi les fidèles. Et après le chantier, il est nommé, avec l'appui de Viollet-le-Duc, on a des papiers d'ailleurs au ministère, gardien appointé de la Madeleine. Comme si, après avoir fait ce gros effort de restauration complète de cet édifice, il fallait que l'État ait encore un... Parce que le bâtiment est municipal quand même. Hein, l'État ait encore un droit de regard sur les suites de cet édifice. Dans son mémoire manuscrit, il détaille les opérations du chantier. Je vous en ai cité des petits passages. Il liste les fragments originaux qui constitueront le musée de l'œuvre. Par exemple, les fragments que je vous ai montrés là, les 3 clés de voûte, la sainte sur le côté, tout ça, il les numérote, il les liste sommairement. C'est très sommaire, mais cette liste succincte est très précieuse. Et sur une page... Cette page, elle s'intitule, cette page du mémoire s'intitule « Liste des sculptures faites à l'église de Vézelay pendant la grande restauration de 1841 à 1861 ». Et ce que je vous ai encadré en orange, « Sous la direction de M. Viollet-le-Duc » et entre parenthèses, « Surnommé le père des ouvriers ». Je trouve que c'est quand même assez étonnant, on ne s'imagine pas Viollet-le-Duc avec alors peut-être que le rapport avec Viollet-le-Duc était particulier, entre Viollet-le-Duc et Pierre Meunier était particulier. Et pourtant, je vais vous dire qu'il n'a pas été tendre, Viollet-le-Duc, avec Pierre Meunier, parce qu'il trouvait qu'il n'était pas très bon sculpteur. Pierre Meunier était appareilleur. Et puis après, comme il s'ennuyait un peu, il a demandé à faire des sculptures. Et on lui donnait toujours à faire des gros culots un peu moches qui sont là sur le haut de la corniche de l'avant-nef. Et il voulait faire mieux, il voulait faire plus. Et Viollet-le-Duc fait comprendre à Cominet qu'il n'est pas tout à fait capable de le faire. Mais bon, il n'y a pas de rancune parce que, vous voyez, il le surnommait père des ouvriers. Et vous voyez un bout de cette liste avec cette petite écriture un peu soignée. Et puis, à la fin de ce mémoire, Pierre Meunier dessine sur 3 pages, là je ne vous en montre que 2, les marques de tâcherons qu'il a relevées sur les pierres taillées de l'édifice du XIIe et du XIIIe siècle. Donc la page de gauche, c'est, vous voyez, porche des catéchumènes, il date la nef du XIe siècle, c'est un peu tôt, mais ce n'est pas grave. Donc il a relevé, pour montrer le travail, les marques de tâcherons, vous savez ce que c'est, ça permettait de payer les gens à la tâche. Et alors, il rajoute dans la page suivante le détail que je vous montre à droite, qui est 19e siècle, 1840-1861, restauration faite dans toutes les parties du monument, c'est donc les marques de tâcherons faites par les ouvriers de Viollet-le-Duc sur les pierres restaurées. Donc c'est quand même très intéressant de voir que prolonger ainsi une tradition médiévale montre quelle influence Viollet-le-Duc devait avoir sur ses équipes, comment sa passion, sa connaissance du Moyen-Âge leur avait été au moins partiellement transmise. Je vous remercie.
Votre émission littéraire Wagon-Livre touche pratiquement à sa fin. Vous avez pu entendre il y a quelques secondes Lydvine Saunier-Pernuit, conservateur délégué des antiquités et objets d'art de Lyon, en charge du trésor de la cathédrale de Sens, dans une conférence enregistrée salle du Clos à Vézelay le 21 juin dernier, une conférence qui avait pour thème « Viollet-le-Duc, le sauveur de Vézelay », conférence proposée et organisée par l'Association des Amis de Vézelay. Je dois remercier chaleureusement Lydvine Saunier-Pernuit qui a permis l'enregistrement de cette conférence et qui nous en a donné l'autorisation pour la partager avec vous sur l'antenne de Radion. Et puis je voudrais saluer et remercier également avec beaucoup de sympathie Paul-Hervé Vintrou, président de l'Association des Amis de Vézelay, qui nous a fait bon accueil et qui a lui aussi permis l'enregistrement de cette conférence que vous pouvez retrouver en podcast sur le site d'archives de votre émission littéraire via Internet, bien sûr www.yannickpetit.fr. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous remercier. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h sur Radion. Au revoir, excellent congé de fin de semaine et à samedi prochain.